Donc, on a voulu ponctuer cette fin de matinée par un regard sur la question de la FTLV, inspiré par l'international. On a fait intervenir deux personnes. Déborah Arnold, qui est responsable du département aide numérique à l'Université de Bourgogne et qui est impliquée dans l'association EDEN, European Distance and Learning Network. Et suite à l'exposé de Déborah, on aura un exposé de Jacques Reynaud, qui est directeur du département d'économie appliquée à HEC Montréal. Voilà.
Bonjour tout le monde. On m'a déjà présenté. L'idée, c'était de faire un petit retour sur le contexte européen avec un petit regard en arrière sur les précédents programmes, les objectifs que l'Europe se fixe en matière de formation tout au long de la vie. Et puis de faire un focus sur un projet très concret qui est actuellement en cours pour démontrer comment 11 établissements de 9 pays différents peuvent travailler ensemble sur ces questions de formation tout au long de la vie et notamment les compétences transversales et les compétences numériques. Donc, si on regarde le programme Éducation et Formation 2020, ou Education and Training 2020, ET 2020, on peut trouver ces quatre objectifs communs, donc au niveau de l'Union européenne. Donc, faire en sorte que l'apprentissage tout au long de la vie et la mobilité deviennent une réalité. Je pense que ça nous concerne pleinement aujourd'hui. La qualité et l'efficacité, on en a parlé aussi tout à l'heure. Les questions d'équité, de cohésion sociale, de citoyenneté, je pense que ce sont des questions aussi importantes quand on pense à formation tout au long de la vie. Et tout particulièrement quand on parle de formation à destination des entreprises, cette question d'encourager la créativité, l'innovation, l'esprit d'entreprise, et ça, on sait tous que c'est une priorité au niveau européen actuellement. Donc, je reviens sur l'ancien programme éducation-formation tout au long de la vie qui a permis de financer des centaines et des centaines de projets transnationaux entre différents établissements et acteurs des secteurs de l'enseignement et de la formation. Et on voit très bien que même si la définition de formation tout au long de la vie, c'est vraiment du préscolaire jusqu'à la formation permanente, on retrouve encore cette organisation en silo. Donc, la question porosité, on était assez loin. Et surtout avec cette distinction entre la formation professionnelle du niveau supérieur qui se retrouve dans l'axe Erasmus de l'époque et tout ce qui était formation professionnelle hors supérieur qui était dans le programme Leonardo. Alors, si on regarde ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, c'est la question du numérique, où ici, à l'époque, c'était les TIS, les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Les TIS, on les retrouvait dans le programme transversal, et pour avoir un projet dans ce programme, il fallait s'adresser à au moins deux secteurs. Donc, soit l'enseignement secondaire et le supérieur, soit le supérieur et la formation professionnelle. Et on était plusieurs, surtout des établissements français, être confrontés à cette distinction entre ce que nous on faisait comme formation professionnelle, mais qui ne permettait pas, qui n'était pas éligible dans le programme Leonardo, parce que autre secteur de formation professionnelle. Donc là, on voit bien qu'il y a des différences d'interprétation au niveau européen, des différences entre les systèmes aussi au niveau européen. Ce qui s'appelle Vocational Education and Training, ce qui est le terme en anglais pour la formation professionnelle, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas en tant que tel en France, en tant que niveau dans le système éducatif. Là, on arrive au programme Erasmus+, qui est le programme en cours actuellement. Et même si ça s'améliore en termes de, on va réutiliser le terme porosité, on trouve encore des objectifs bien spécifiques aux deux secteurs, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Mais je pense que, d'après ce que j'ai déjà entendu ce matin, dans l'enseignement supérieur et dans la formation professionnelle dans l'enseignement supérieur, il y a cette préoccupation aussi d'adapter les formations aux besoins des entreprises. On était plusieurs à soutenir ces propos tout à l'heure. Donc, je fais juste un petit passage sur le réseau Eden, parce que les projets que je vais vous présenter concernent ce réseau, mais aussi des établissements français. Donc, Eden, c'est le réseau européen pour l'enseignement à distance et l'enseignement numérique, qui existe depuis 25 ans maintenant. C'est notre 25e anniversaire cette année. Et je vous invite aussi à venir à la conférence à Budapest qui a lieu au mois de juin. Donc, il représente 200 membres institutionnels. Parmi les 200 membres, il y a 5 ou 6 membres français, dont les UNT, les universités numériques thématiques, mais aussi des établissements et des acteurs de la formation professionnelle. Et donc, voilà quelques exemples de projets. Donc, parmi les 64 projets européens auxquels Eden a participé depuis 1997, j'ai fait une petite sélection des projets les plus pertinents pour les discussions aujourd'hui. Donc, dans ces projets, on trouve des projets assez stratégiques, comme le projet Vizier, pour explorer de manière très, très large à travers l'Europe comment le numérique peut faire de la formation tout au long de la vie une réalité. Il y a des rapports très, très intéressants qui sont sortis de ces projets. On trouve des projets, on va dire, par secteur professionnel, comme le secteur de la santé, avec les projets CARE et CARENET. Des projets pédagogiques, les deux projets REVIVE, qui avaient pour objectif de rénover les programmes de formation en formation professionnelle, avec aussi une démarche qualité intégrée. En ce qui concerne la qualité, il y a le projet CEVAC+, qui était assez soutenu aussi en France pour créer un outil d'auto-évaluation de la qualité dans les dispositifs de formation qui s'adressait à la fois aux dispositifs d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Et enfin, les deux projets du réseau ELEN, qui est le réseau e-learning européen, membre aussi d'Eden, où Eden participe avec Hélène dans ces deux projets. Et là, on est dans une vraie logique de formation tout au long de la vie, parce que ces deux projets s'adressent aux transitions. Le premier, Hélène to Learn, la transition entre le secondaire et le supérieur, et comment le numérique soutient ou peut soutenir le développement de la compétence « apprendre à apprendre ». Donc, on a un niveau, beaucoup de recul sur la notion de compétence, parce que là, on est dans la compétence apprendre, apprendre, et le rôle du numérique dans cette transition entre le secondaire et le supérieur. Et dans la logique des transitions, le projet en cours actuellement, Ellen for Work, regarde le rôle du numérique dans la transition entre l'enseignement supérieur et le monde du travail. Et quelles sont les compétences transversales et les compétences numériques qui sont demandées sur le marché du travail, et comment on peut accompagner les étudiants à développer ces compétences-là. Donc, à partir des recherches qui ont été faites au tout début du projet, on voit dans un grand nombre de rapports européens et autres que ces compétences transversales sont liées à l'employabilité, tout particulièrement pour des jeunes qui entrent sur le marché du travail. Des projections qui nous disent que d'ici à 2020, 90% des emplois nécessiteront des compétences numériques. Et aussi cette question d'insertion professionnelle, le décalage entre la vision des universités et des universitaires sur leur capacité à préparer les jeunes pour rentrer sur le marché du travail, et la perception des étudiants et des employeurs. Donc, dans notre recherche sur les compétences, et là, on a choisi le terme compétences transversales en français pour ne pas donner chaque fois les 10 définitions qu'on peut trouver. En anglais, le terme qu'on utilise, c'est soft skills. On a aussi trouvé le terme wicked skills, que j'aime assez, qui se traduit par des compétences un peu sorcières, parce que ces compétences peuvent changer en fonction du contexte, peuvent évoluer dans le temps. Donc, donc on est sur du terrain assez mouvant dans ce domaine des compétences transversales. Quand on a commencé à faire le travail en France, on a vu qu'il y avait les compétences transversales, les compétences non techniques, on entend les compétences du 21e siècle. Donc on a essayé de recenser et de rattacher une définition à chacune de ces appellations. Et là, je parle que entre l'anglais et le français. Il y avait aussi une compréhension très différente. Les compétences numériques ou socio-numériques ou les compétences transversales numériques dans nos têtes étaient souvent confondues avec des compétences informatiques pures et dures. Et où se trouve la différence entre les deux ? Beaucoup de débats aussi autour de la notion de compétences métiers et de compétences transversales. Quand on a parlé du numérique et du web 2.0, on a eu l'exemple du community management. Beaucoup de débats. Est-ce que le fait d'animer savoir animer une communauté en ligne, c'est une compétence transversale ou c'est une compétence métier ? Et puis des interrogations aussi sur des notions scientifiques. Est-ce que les compétences qu'on appelle personnelles, des traits de caractère par exemple, peuvent s'apprendre ? Il y a quelques ouvrages et quelques travaux qui pensent que oui, mais ce n'était pas forcément l'avis de tout le monde. Et aussi des questions sur est-ce le rôle de l'enseignement supérieur d'enseigner ou de permettre l'apprentissage de ces compétences transversales, donc des compétences autres que disciplinaires. Donc, la façon dont on a travaillé dans ce projet, c'était donc à partir d'une analyse comparative de politiques, de publications scientifiques et d'initiatives dans les 9 pays du groupe. Donc ça, c'était une première analyse. Deuxième analyse à partir de focus group. Et on a entendu François Germinet dire tout à l'heure que la pédagogie doit se travailler avec les publics visés, mais cette analyse, on l'a faite avec les publics visés aussi. Et on est assez fiers d'avoir relevé ce défi de réunir dans 9 pays des focus groupes d'étudiants et de jeunes salariés pour confronter leur perception des compétences transversales et les besoins du marché du travail, et des groupes d'enseignants et des RH dans un autre focus group. Donc ça, c'est un premier tour. Et dans le deuxième tour, on a confronté chaque groupe aux propos de l'autre groupe. Donc ça nous a permis de commencer à tirer quelques conclusions sur les pistes à suivre. Et donc, côté soutien à l'apprentissage, il y a deux résultats concrets qui sont en cours de conception en ce moment. C'est un outil d'auto-évaluation sur ces compétences-là et un guide d'orientation pour ensuite permettre aux étudiants et à jeunes salariés de commencer à faire état de ces compétences-là, de les mettre en avant, en valeur, dans leur CV, dans leur e-portfolio. Donc, la logique, c'est vraiment au soutien de l'apprentissage autodirigé. Donc, ça veut dire que, bon, c'est très bien que la formation avec par les MOOC, on a besoin d'être très, très autonome comme apprenant. Et donc là, il y a tout un volet là dans ce projet qui permettra de soutenir les étudiants à devenir des apprenants autonomes pour le développement de ces compétences-là. Donc, on me dit que j'ai 2 minutes. Normalement, je vais assez vite et là, pas assez apparemment. Donc, je vous laisse là la liste des 10-15 compétences sur lesquelles on va travailler. Ce n'était pas évident d'arrêter cette liste. Beaucoup, beaucoup de débats autour de ça. Le dispositif, donc, vu du côté de l'apprenant qui va faire son auto-évaluation de ses compétences, qui va pouvoir choisir parmi les ressources éducatives libres et les MOOC des moyens de développer ses compétences. Je dirais juste, parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur, c'est que ce n'est pas uniquement dans les contenus des MOOC qu'il faut aller chercher le développement de ces compétences-là, c'est dans des approches pédagogiques qui sont mobilisées. Un MOOC qui fait appel à du travail collaboratif, au développement de l'esprit critique, dans les approches pédagogiques même, on peut soutenir le développement de ces compétences. Et donc là, c'est le rapport entre le parcours de l'étudiant et les différents éléments du dispositif. Je vous laisse donc découvrir le partenariat qui travaille sur ce projet. Donc, pour la France, c'est l'UNT ONEJ, Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, l'Université de Bourgogne et l'Université de Lorraine. C'est un partenariat qui fonctionne très bien. On en est à notre 5e projet européen ensemble. On travaille ensemble depuis 10 ans. Et à chaque fois, il y a un nouveau partenaire qui arrive à porter un autre regard sur les travaux et la collaboration. Donc là, je vous laisse avec le site web du projet et mes coordonnées. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Déborah. On passe à l'intervention de Jacques Reynaud et puis après, on prendra 2-3 questions pour les deux intervenants.
Bonjour tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs pour l'invitation. C'est une occasion fortuite. Là, j'étais à Paris pour une autre conférence et on m'a proposé de venir vous parler. Donc, j'ai accepté avec plaisir. Je vais essayer de contribuer à vos discussions d'une façon un peu particulière, en vous donnant un point de vue plus nord-américain, plus québécois. Peut-être que plusieurs d'entre vous connaissez le système québécois, ça pourra... Et je vais parler un peu, en fait, de 3 choses. Les certificats, c'est-à-dire que ce qu'on fait à HEC Montréal, qui me semble en lien avec ce qu'on discute aujourd'hui. Parler très brièvement de la VAE. Puis finalement, parler un peu d'un outil que nous développons, qui s'appelle Caruta, qui est un portfolio, et qui permettrait peut-être de fournir espèce de colle pour faire en sorte que tous ces projets-là de formation tout au long de la vie puissent... tenir la route. Rapidement, je m'intéresse à ces choses-là depuis très longtemps. J'étais directeur de programme chez nous. J'ai été impliqué dans toutes sortes d'initiatives en formation en ligne. J'ai subi un MOOC. En fait, j'ai fait un MOOC moi-même là, pour Edulib à HEC Montréal. Et je suis maintenant responsable, je suis impliqué dans le projet de portfolio Caruta. Donc, ça me permet d'avoir un œil peut-être un peu différent sur ces problématiques-là. Bon, peut-être la première chose, chez nous, il y a quand même une très grande différence dans la formation tout au long de la vie entre la formation diplômante et non diplômante. Moi, je vais parler surtout de la formation diplômante, celle qui mène à une reconnaissance là, formelle avec un diplôme. Et c'est ce qu'on appelle les certificats chez nous à HEC Montréal. Ce sont des diplômes courts, règle générale, une suite de 10 cours que des étudiants, c'est des programmes professionnels pour des adultes en situation de travail qui viennent chercher des compétences très ciblées pour pouvoir augmenter leur employabilité, prennent ça le soir en règle générale, et ça se donne à HEC Montréal depuis très longtemps. Évidemment, l'objectif, c'est d'augmenter l'employabilité, et c'est quand même des programmes importants chez nous. On a presque 6 000 étudiants qui sont inscrits dans ces programmes-là courts, et on en a diplômé 1 800 quelques l'année dernière. Et quand je parle d'un diplôme, c'est vraiment cette reconnaissance-là de 10 cours. Peut-être pour vous donner des exemples, je ne vais pas tous les nommer, vous allez voir le caractère très professionnel. Il y en a en entrepreneuriat, il y en a en logistique, en marketing... il y en a en ressources humaines, en sciences comptables, technologie de l'information. Donc, vous voyez que c'est des espèces d'amalgames de cours qui développent finalement probablement un certain nombre de compétences très ciblées pour le marché du travail. Ce qui s'est passé, et c'est peut-être intéressant dans vos discussions, il y a eu un passage au numérique chez nous depuis peut-être 7-8 ans. On a commencé de façon très graduelle avec la formation hybride. Bon, la formation hybride, c'est plus tellement novateur maintenant, ça l'était pour les professeurs à cette époque, c'est de dire qu'au lieu d'avoir 12 périodes de contact avec mes étudiants, il y en aura 3 qui se feront complètement à distance. C'était quand même, pour certains, une certaine révolution. Ça pouvait se faire en synchrone et en asynchrone aussi, donc les deux. Par la suite, on a commencé à faire de la captation vidéo de cours, pour que des étudiants adultes qui sont souvent pris dans des contraintes familiales ou des contraintes là, de travail puissent quand même poursuivre les études. Donc, on commençait à capter toutes sortes de cours pour les rediffuser aux étudiants. Et là, il y a eu un changement important chez nous en 2014, c'est l'initiative Édulib, qui est un peu le, en fait, qui était lancé avant FUN, qui s'adressait à la francophonie, et qui, où on a lancé des cours de comptabilité, de marketing, et c'est là que j'ai donné un cours d'économie, de politique économique dans ce contexte-là. Et ça, ça a fait faire un saut quantique aux enseignants HEC Montréal, et ça a permis une appropriation de ces technologies-là. Et en septembre 2015, tout récemment, on a lancé un certificat complet, c'est-à-dire 10 cours, de façon graduelle. Ce n'est pas tous les 10 cours qui vont être donnés en ligne, mais on a lancé un certificat complet en ligne, à distance. Et c'est ce certificat-là qu'on appelle certificat en gestion d'entreprise. Donc, c'est un certificat qui donne un peu les bases à des travailleurs, des travailleuses qui ont un lycée, règle générale, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais qui sont sur le marché du travail, qui veulent se développer. Et donc, ils vont chercher des compétences en management, en comptabilité, en marketing, en finance. Et tous ces cours-là vont être donnés en ligne, à distance, évidemment avec un encadrement pédagogique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand même. Et pour justement rejoindre un public qui est peut-être difficile à rejoindre, parce que justement à cause des contraintes de travail ou tout simplement des contraintes là, géographiques. Et bon, je ne vais pas rentrer là-dedans très longtemps, mais notre expérience avec les MOOC et Édulib nous a fait voir en fait que finalement, nous, on a développé un certain nombre de capsules. En fait, les capsules vidéo, ce sont toutes à peu près des capsules vidéo de 7, 8, 10 minutes maximum. Et c'est vraiment un agencement qui va faire que, par exemple, les enveloppes vidéo, c'est l'enseignant qui va essayer de présenter un peu le module, par exemple, et orienter les apprenants. Il va y avoir des concepts charnières qui vont être des vidéos beaucoup plus léchées, qui vont comme vraiment présenter de façon intéressante là, certains concepts clés. Il va y avoir des exposés, des entrevues avec des gens sur le marché du travail. Encore une fois, c'est des programmes très professionnels qui visent à faire en sorte de rattacher un petit peu ce qui est enseigné avec des réalités du marché du travail. Bon, il y a de l'évaluation, puis il y a toutes sortes, il va peut-être y avoir des activités synchrones. Donc, c'est un peu l'idée, mais c'est quand même assez important. Il y a d'autres établissements au Québec qui font de l'enseignement en ligne. L'Université Laval est très présente. Il y a la télé-université, mais c'est quand même la première fois que, dans le fond, un établissement comme HEC se lance là, de cette façon, justement pour rejoindre les étudiants. Bon, rapidement, on fait de la VE HEC, mais c'est vraiment presque anecdotique. C'est pas quelque chose qu'on encourage, qu'on publicise tant que ça. On devrait le faire beaucoup plus, et je pense que vous êtes plus avancé à ce niveau-là. Donc, l'étudiant doit remplir un formulaire, qui est un peu comme celle-là. On lui présente le nombre de les cours disponibles et les titres, et l'étudiant demande une exemption. Il doit déposer des fichiers et se permettre, là, d'ailleurs, c'est assez intéressant, aux fins d'impression, les commentaires, limiter le texte à 10 lignes. Donc, l'étudiant va être vraiment une compétence de concision ici pour faire valoir tout ce qu'il a fait en 10 lignes. Bon, en tout cas. Non, mais je ne veux pas critiquer, là, c'est assez difficile. À l'Université de Montréal, c'est beaucoup plus élaboré. Ils ont c'est un peu la construction d'un espèce de portfolio de professionnels. Il y a des accompagnateurs, il y a toute une logistique là, qui accompagne les étudiants. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez limité. Je pense que l'année dernière, quelqu'un me disait qu'ils en ont donné à peu près une centaine. La faculté d'éducation permanente, qui est comme un peu à part. Encore une fois, je parle de formation diplômante ici. Ce qui n'est pas diplômant, puisqu'on a discuté aujourd'hui, nous, on appelle ça peut-être à HEC Montréal l'école des dirigeants. Donc, c'est toutes sortes de formations données en entreprise, mais c'est un peu différent. Ce qui m'amène à parler des portfolios, alors c'est très intéressant parce qu'au Québec, ça ne bouge pas tellement à ce niveau-là, mais en France, peut-être un peu plus. Et nous, on travaille là-dessus, sur les portfolios. Donc, évidemment, on a noté avec un grand intérêt l'appel à projet là, sur les e-portfolios par votre ministère. Et en fait, cet appel à projet-là, on parle de 4 types de portfolios. Il y a des portfolios d'apprentissage qui sont vraiment là pour accompagner les étudiants dans leur parcours là, d'apprentissage. Il y a les portfolios d'évaluation qui sont quand même importants, dans le sens où c'est eux qui vont permettre là, de donner une certaine forme de reconnaissance. Il y a les portfolios de développement professionnels, ceux-là, ils sont, semble-t-il, beaucoup plus réflexifs. C'est-à-dire que là, on parle des compétences transversales, on en a parlé, d'être plus réflexif dans ces apprentissages, souvent dans un cadre informel. Et finalement, il y a les portfolios, oups, une petite erreur, de présentation, où là, c'est l'étudiant qui, en fait, c'est plus là, comme le portfolio d'artiste, là, où on essaie de se présenter dans toutes ses dimensions, dans toute son originalité. Donc, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est peut-être la VAE dans ce contexte-là. Dans le fond, probablement qu'on pourrait imaginer des portfolios de VAE qui seraient un peu des combinaisons d'éléments qu'on va retrouver un peu dans tout ça. C'est pas quelque chose d'aussi campé que, par exemple, un portfolio d'évaluation. Ça me semble être beaucoup plus. Bon, pour faire ça, évidemment, ça demande des solutions flexibles qui sont adaptées aux besoins. C'est un petit peu la difficulté des portfolios. Souvent, c'est très cadré. On le fait comme ça, comme ça, comme ça. Évidemment, c'est pas toujours le souhait ici. Donc, faut être flexible. Je sais pas comment la personne fait pour faire ça. Moi, c'est pas truqué. C'est sûr. Et c'est là que ça nous amène à notre définition d'un portfolio à nous. C'est vraiment une organisation de différents types de ressources selon un processus. Et c'est vraiment, j'insiste sur le processus, c'est pas l'outil qui est important, jamais, c'est le processus. Quelles sont les étapes? Quels sont les intervenants? Qui fait quoi? Dans quel ordre? Et en fait, c'est ça, je pense, que la richesse d'un portfolio, il fait que ça sera utilisé. Et c'est ça, c'est pour cette raison-là que nous, on a développé depuis 2008 un environnement de portfolio flexible qui pourrait peut-être aider à ce niveau-là, qui s'appelle Caruta, qui est un projet de la Fondation Apareo, auquel le groupe ESUP là, français, qui est un consortium d'universités françaises, participe activement. Et nous, ce qu'on propose dans ces approches-là, c'est de vraiment y aller par itération et par prototypage, c'est-à-dire une équipe de designers, de concepteurs, développe une espèce de démarche qui est formalisée, qui est prise en compte dans le logiciel. On développe des gabarits qui vont être réutilisables pour toutes sortes de clientèles. Et finalement, on peut les mettre à la disposition et les exécuter. Le prototype étant vraiment important parce qu'il faut, il faut vraiment se pratiquer à le tester auprès de participants réels. Je vais vous donner un exemple de ça rapidement. J'ai bricolé ça hier soir avec de l'aide d'un collègue. Donc, c'est mon portfolio de... Je suis Jacques Rénaud, là. Mon portfolio de valorisation des acquis. J'ai déposé un certain nombre de preuves dans mon portfolio. L'outil permet de donner de l'aide un peu. Quand vous voyez le petit i, là, on donne de l'aide. Là, c'est important parce qu'on ne veut pas de manuel élaboré. Les gens ne les lisent pas, puis il faut les aider dans leur processus-là. Donc, je vais ajouter une preuve. Par exemple, je dois déposer une preuve. C'est assez orienté vers l'Université de Montréal pour l'instant. Donc, ça s'appelle. J'ai supervisé un projet que j'appelle ABC. Donc, en haut de ligne, on a mis tout de suite la validation par l'évaluateur. Cette validation-là, il n'y a pas de crayon. En passant, quand vous voyez un petit crayon bleu, c'est l'étudiant qui peut faire des opérations. Donc, moi, je peux ajouter des fichiers, je peux déposer des choses. Je peux déposer des documents, les commenter, comme vous voyez un peu ici en bas, puis éventuellement les relier à l'aide d'un menu à des cours ou à des objectifs. Je pourrais relier à des compétences si je voulais. Il n'y a aucune difficulté. Ça dépend du processus et du mécanisme. L'évaluateur, par la suite, va nous dire si je suis satisfait aux exigences ou pas. Il pourrait mettre des commentaires aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut développer des espèces de tableaux de bord comme ceux-là assez facilement, qui permettent de voir, du côté de l'apprenant certainement, ou de l'étudiant, où il en est, qu'est-ce qui a été validé, on pourrait rajouter des commentaires, qu'est-ce qui pose problème. Évidemment, ça pourrait être intéressant du côté des évaluateurs, du côté des responsables de programme. Donc, tout ça pour essayer de faciliter la VAE, faire en sorte que ça soit plus simple, plus transparent, plus facile. Et c'est sûr que nous, on est ouvert à collaborer avec des gens qui sont prêts à peut-être travailler sur des outils pour justement faciliter leur travail. Donc, je pense que je vais arrêter là. Je ne sais pas si j'ai pris trop de temps. Donc, je suis ici. Si vous avez peut-être des questions plus tard, ça me fera plaisir. J'espère avoir aidé là, à vos discussions avec cette courte intervention. Merci.
Bien, merci beaucoup à Déborah et à Jacques. On va se donner 5 minutes pour quelques questions sur les deux interventions, qui me semblent déjà être bien en phase l'une et l'autre sur cet aspect assez singulier du numérique, du point de vue que le numérique est à la fois quelque chose qui permet une flexibilité pour justement la formation à l'employabilité, mais c'est aussi un enjeu de la formation de l'employabilité que de former des gens à l'aise avec le numérique. Donc il y a cette chose qui est assez intéressante, et je trouve que les portfolios réunissent bien cette dualité des enjeux dans quelque chose d'assez bien senti. Je voulais juste rebondir à quelque chose. C'est pas les outils, c'est les processus sur lesquels il faut se porter toute notre attention. 100% d'accord. J'imagine que dans cette observation-là, le pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est d'essayer de simplifier les processus avec des outils compliqués.
Tout à fait. Je peux pas. Je suis absolument d'accord. Il faut des outils simples, mais qui permettent de donner justice à des processus qui sont riches.
Bien, je vous donne la parole.
Positionner un peu plus sur la VAE, je pense qu'on est évidemment partant. Le réseau formation continue à l'université est partant pour travailler sur ce qui me paraît être un portfolio devant permettre d'inscrire la VAE dans une logique y compris de parcours, pas simplement de validation totale. Et donc ça fait partie des sujets dont on discute depuis maintenant quelques années avec des expérimentations de validation des acquis à distance, mais je pense que vous avez un répondant du côté du réseau bon, francophone.
Super, merci.
Oui, juste un petit complément que je voulais demander à Jacques Reynaud. Il nous a présenté un outil portfolio. Nous avons beaucoup parlé ce matin aussi des compétences des enseignants. Est-ce qu'à HEC Montréal, un portfolio est utilisé pour les enseignants?
Une bonne question. Non, mais on devrait sûrement. Enfin, on en parle beaucoup des portfolios pour les enseignants. Je pense que c'est intéressant pour justement colliger toutes les expériences et les réflexions qu'on a accumulées au fil des ans. En fait, nous, on a tout un système de promotion. Vous savez, après un certain nombre d'années, il y a une permanence, puis après ça, il faut passer professeur titulaire, tout ça. Et c'est presque ça que les professeurs complètent, mais pas de façon aussi formelle. Mais aux États-Unis, ça existe. Il y a plusieurs universités qui le font. Et je pense que j'ai entendu parler de ça dans certains établissements privés en France. Mais bonne idée.
Je profite que j'ai le micro une nouvelle fois. Peut-être pour Déborah Arnold, on a donc l'association Eden. Il se trouve qu'un certain nombre d'universités françaises sont membres d'une autre association qui aide et dédiée à la formation tout au long de la vie, qui s'appelle UCAN, et qui a mené des projets communs, formation continue. C'est European University for Continuing Education Network, qui est une association sœur ou frère, je ne sais pas, de Eden, et qui a mené des projets communs avec Eden sur un certain nombre de points, parce qu'en effet, le lien formation don de la vie et numérique et enseignement à distance est présent dans les réflexions européennes et visiblement peu en France. Donc j'encourage les universités françaises à regarder ces deux réseaux et à participer activement à des projets dans lesquels on est significativement absent, hein, ou peu présent en tout cas.
Donc ce n'était pas vraiment une question, c'était pour appuyer le besoin de s'intéresser à tout ce qui se passe au niveau européen et puis les croisements possibles entre les différents réseaux.
Et on apprend beaucoup.
Je suis entièrement d'accord.
Alors moi je voudrais juste apporter un complément d'information à propos de l'e-portfolio qui vient d'être présenté. Le ministère apporte un soutien financier à l'association Issue Portail qui a organisé hier et avant-hier 2 journées, Issue Days. Alors je vous invite à aller voir leurs travaux. Cette association soutient enfin, ou anime un réseau d'établissements de 70 établissements qui développent, qui pensent, qui développent de nouveaux services numériques pour les étudiants et les enseignants. Donc je vous invite aussi à croiser avec ce réseau parce qu'il me semble qu'on peut s'enrichir mutuellement les uns les autres.
Un oubli là, incroyable. Nous travaillons sur un portfolio d'insertion professionnelle avec l'IUT2 de Grenoble. Donc, on a une connaissance là, quand même. Là, on a des partenaires en France et on a une connaissance là, des IUT en tout cas et de tout un système de formation par compétences. Mais bon, c'est tout un ajout. Mais c'est vrai que nous, on travaille en étroite collaboration avec les universités là, faisant partie du consortium ESE.
Bien, merci beaucoup. Oui, pardon. Alors, une toute dernière.
C'est à la fois une question et une remarque qu'il y a un rapport individuel. Hein, on a un étudiant ou un stagiaire qui va mettre ses preuves, indiquer ses compétences dans un portfolio. Et l'expérience que j'ai eue d'évaluation des compétences en tant que RH en entreprise, j'ai trouvé plus riche quand on était en groupe. Alors, je ne sais pas si c'est possible, si c'est compliqué à mettre en place, etc. Mais ce que j'ai vu, c'est que les gens évaluaient leurs compétences d'une façon différente quand on était en face à face entre le RH et la personne. Déjà, c'était une évaluation à deux. Et quand c'était en groupe, c'est-à-dire que les collègues pouvaient apporter des informations complémentaires à la personne en lui disant « Mais si, tu as des compétences en gestion de projet, d'ailleurs, tu as conduit le projet dans les délais, et puis tu as négocié à tel moment, tu as des compétences en négociation aussi, tu n'en as pas parlé, etc. » Donc il y avait un complément, si vous voulez, qui m'a semblé important. Et l'impression que j'ai, qui est peut-être fausse, dans les présentations, là, c'est que c'est très une personne, un stagiaire, face à ce qu'il pense qu'il a appris. Voilà. Est-ce qu'il y a du collectif? Est-ce qu'il y a des expériences avec du collectif?
Excellente question. En fait, très rapidement, je pense que ça dépend du processus. Et c'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur le processus et non sur l'outil. Donc, je ne veux vraiment pas donner l'impression que l'outil est comme cadré et c'est comme il y a une seule façon de faire. Par exemple, on peut très bien imaginer que l'étudiant invite d'autres personnes à présenter des commentaires sur sa prestation, par exemple, et viendrait enrichir justement le portfolio. Peut-être en présentiel, peut-être pas, mais bon, c'est encore une fois, j'insiste vraiment sur le processus et se méfier vraiment des outils. Pour qu'on puisse aller chercher toute la richesse là, du travail là, de reconnaissance.
Et puis une fois de plus, je pense qu'inciter la démarche collective qui est vertueuse, c'est avant tout une démarche pédagogique plus que l'affordance d'un outil qui va s'ouvrir dans les minutes...